Jean chapitre 3 et à partir du verset 1er, il est question d'un rendez-vous, d'une rencontre qui évidemment n'est pas une rencontre ordinaire puisque un homme va rencontrer le Fils de Dieu, un homme rencontre Dieu et quand il y a, chaque fois qu'il y a une rencontre avec Dieu, forcément il se passe des choses assez surprenantes. Et voici ce que nous lisons. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. » Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. » Quand un navire lance un SOS, c'est qu'il y a un danger, normalement. Danger de mort, il y a peut-être une tempête, une avarie, il y a quelque chose qui se passe mal. Donc, on espère qu'un bateau va entendre le SOS et vienne rapidement porter secours à ce navire qui est en détresse. Et en général, quelque chose accompagne le SOS, sauf qui peut. Vous avez remarqué qu'en général, on ne dit pas « sauf qui veut ». Non, c'est « sauf qui peut ». Et forcément, à un moment donné, on ne va pas se poser la question « je veux ou je veux pas me sauver ?» Si le bateau coule, on essaye de se sauver comme on peut. Alors évidemment, avec plus ou moins de réussite, forcément. Mais on comprend qu'on fera tout ce qu'on peut pour s'en sortir, parce qu'on veut pas mourir, parce qu'on veut évidemment sauver sa peau. Et chacun va se débrouiller, hein. Chacun va faire comme il peut. Et s'il peut s'en sortir, il le fera. Certains très altruistes vont penser bien évidemment aux autres et vont essayer d'aider également d'autres personnes. Mais voilà, c'est forcément comme on peut. Dans la vie, malheureusement, c'est il suffit pas de vouloir pour pouvoir. Même si on veut s'en sortir et qu'on ne peut pas s'en sortir, on ne s'en sortira pas. La différence dans les choses, on va dire, spirituelles, quand on s'approche de Dieu, c'est qu'il suffit précisément de vouloir. Il suffit de vouloir. C'est pas mental. Parce qu'il suffit de vouloir et ensuite de compter sur Dieu, c'est-à-dire le seul qui peut faire quelque chose. Moi, je veux, mais Dieu peut le faire. Dans d'autres circonstances, il est évident qu'il ne suffit pas, comme je l'ai dit et j'insiste, de simplement vouloir le faire, sauf qui peut. Si vous savez nager, tant mieux. Si vous ne savez pas nager, tant pis. Mais essayez de vous accrocher à un bout de bois. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit quand l'apôtre Paul a fait naufrage avec tous ceux qui étaient dans le bateau, plus de 260 et quelques personnes. On a bien donné ces recommandations. Accrochez-vous à tout ce qui flotte et essayez d'atteindre le rivage. À un moment donné, on essaiera de s'accrocher à ce qu'on peut. Néanmoins, on s'aperçoit que ici-bas, la vie est faite de paradoxes et on trouve vite des limites. Et que quelque part, c'est assez surprenant, mais on peut être ignorant malgré ses connaissances, on peut être pauvre malgré ses richesses, On peut être perdu malgré tout ce que l'on possède et qui nous met en sécurité. Et on peut être seul et sans autorité malgré la foule, malgré son pouvoir. Et je voulais revenir sur ces vies un peu étonnantes, paradoxales, où finalement certains auraient voulu mais ne pouvaient pas. Et ce n'était pas de leur faute qu'ils ne puissent pas. Il suffisait simplement qu'ils demandent à Dieu de les aider. Remarquez dans le texte que l'on vient de lire justement maintenant, Nicodème. Quand Nicodème vient vers Jésus, Jésus lui pose juste une recommandation. Nicodème, tu veux connaître le ciel, tu veux connaître l'éternité, tu veux savoir ce qu'il y a après la vie, après la mort. Alors c'est simple, Nicodème, il suffit que tu naisses de nouveau. C'était très simple. Sauf que dans la tête de Nicodème, c'est très compliqué. Et souvent dans notre tête, les choses que Dieu nous dit qui semblent très simples prennent des proportions extravagantes parce que c'est trop compliqué. On ne comprend pas. Comment est-ce possible ? Malgré ses connaissances, Nicodème, c'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, mais malheureusement, ça ne suffit pas. J'ai lu un article qui a été écrit par un philosophe. Il raconte cette petite histoire, une tradition, la tradition soufie, qui raconte l'histoire d'un philosophe qui traversait un fleuve sur un bateau. Au cours de la traversée, il s'efforçait de montrer sa sagesse au batelier. « Vous ne savez pas quelle grande contribution Schopenhauer a léguée à l'humanité ?»« Non, répondit le batelier, mais je connais Dieu, le fleuve et la sagesse simple de mon peuple. »« Eh bien, répondit le philosophe, sachez que vous avez perdu la moitié de votre vie. » Au milieu du fleuve, le bateau frappa contre une pierre et il fit naufrage. Le batelier nageait vers une rive quand il vit le philosophe se noyer et dire « Je ne sais pas nager, désespérément. » Le batelier l'a regardé en disant « Malgré mon peu de connaissances, j'ai perdu la moitié de ma vie, mais vous, par le fait de ne pas savoir nager, vous venez de perdre toute votre vie. » Alors finalement, les connaissances, ça ne fait pas tout, vous le savez bien. Et on peut connaître beaucoup de choses sans que cela puisse suffire. Nicodème, il en savait quand même un rayon sur les choses spirituelles, parce que c'est son domaine, malgré tout. C'est quelque chose qui l'interpelle et qui l'intéresse. Et d'ailleurs, on le nommait docteur, c'est-à-dire, on va dire spécialiste des choses religieuses, très pointu sur des questions de doctrine. Et quand il vient vers Jésus, on aurait pu penser que rapidement, on allait dévier sur quelque chose de très théologique. Et Jésus va lui poser un problème théologique. Dans le fond, pour un homme d'église, quoi de plus normal que de discuter théologie? Donc il lui pose un problème qui est de taille. Si tu veux voir entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut naître d'esprit. Et ça, c'était un problème sans solution pour le pauvre Nicodème. Je suis quand même assez surpris de voir que malgré tout son savoir, il n'était pas éclairé sur ces choses-là. En fait, tous les livres qu'il avait pu lire ne l'avaient pas spécialement guidé. Je me souviens de quelqu'un qui n'était pas très grand et qui me disait « j'aime beaucoup les livres ». Alors j'étais surpris, j'ai dit « ah bon, et qu'est-ce que tu lis ?»« Ah non, je ne lis pas hein. ». Il dit « mais tu viens de me dire que tu aimes beaucoup les livres ». « Ben oui, parce que ça m'aide, je mets ça sur une chaise et je peux changer l'ampoule ». Et il aimait beaucoup les livres. On avait besoin. Mais après ça, la connaissance, ça ne l'interpellait pas trop. Ce n'est pas trop ce qui l'intéressait. Finalement, je m'aperçois que Jésus va l'inviter à sortir cet homme Nicodème d'une approche intellectuelle. Les choses de Dieu, ça ne se réfléchit pas simplement avec sa tête. Ça doit se réfléchir avec le cœur. Ça doit se sentir avec le cœur. Ça doit s'expérimenter avec le cœur. Et finalement, malheureusement, dans une certaine théologie que l'on appelle libérale, beaucoup de gens connaissent les textes de référence, la Bible et d'autres textes des premiers croyants, de tous ceux qui ont écrit des thèses, etc. Mais ils s'écartent énormément du simple message biblique. Pourquoi ? Parce que tout va dans leur tête et peu dans leur cœur. C'est un raisonnement. C'est une façon d'interpréter, une interprétation toujours sujette à caution. Et on remet toujours en question l'interprétation, quelle qu'elle soit. Mais dans le fond, Jésus va être clair avec lui. « tu connais plein de choses. Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses, c'était un reproche. Tu connais tellement, et je m'adresse à vous qui connaissez l'Évangile depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui n'avez pas fait le pas de la foi encore. Mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Mieux connaître? Avoir un peu plus de connaissances? Mais vous n'en aurez jamais assez. À un moment donné, il manquera toujours un petit bout pour terminer, pour compléter la mesure. Il manquera forcément quelque chose. Jésus dit à cet homme, écoute Nicodème, le plus important, ce n'est pas tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu crois. Et il y a malheureusement une différence entre le fait de simplement connaître et le fait de croire. Alors, il va lui indiquer la porte de sortie, et il va lui dire, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça reste confus, mais ça va faire son chemin, puisque les années vont passer, et quelques années plus tard, on retrouve Nicodème, qui a vu le royaume de Dieu, qui est entré dans le royaume des cieux, qui a vu cela parce qu'il venait de faire une belle expérience avec Dieu, et il en rendra témoignage à la mort de Jésus à la croix. Il sera parmi ceux qui viendront rendre témoignage publiquement qu'il croyait que celui qui venait de mourir était réellement le Fils de Dieu. Il y a peut-être une indication qui pourra vous encourager, vous aider, à savoir que pour que le ciel s'ouvre, la première des choses à faire, c'est de prier. Alors que Jésus va vers Jean-Baptiste pour être baptisé, au début de l'évangile de Luc, il nous est précisé que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Si vous voulez voir le ciel s'ouvrir, il vous faut simplement prier. Et puis, Jésus insistera dans ce même évangile de Jean, un petit peu plus tôt, en disant que vous verrez maintenant désormais le ciel ouvert et le Fils de Dieu monter et descendre, les anges, pardon, de Dieu, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert. Si votre connaissance de Dieu est floue, ce n'est pas de la faute de Dieu, le ciel est ouvert. Vous pouvez le trouver, vous pouvez le rencontrer. Ce n'est pas simplement qui pourra, c'est ne serait-ce qui croira, qui voudra croire, et laissez à Dieu le soin de toucher votre cœur et de vous amener à cette véritable connaissance, la connaissance du cœur. On peut connaître beaucoup de choses et être un ignorant, c'était le cas de Nicodème. Et puis je pense à cet homme, on en a parlé un petit peu ce matin, un homme qui a été seul au milieu d'une foule, seul à cause de son infirmité, seul à cause de ses souffrances, seul au milieu d'un univers de gens seuls et malades, c'était un peu chacun pour soi. Cet homme, on trouve son histoire toujours dans cet évangile au chapitre 5. C'est un paralysé qui a décidé de se rendre dans un endroit où, paraît-il, il y a des miracles. Alors il se tient au bord de la piscine de Bethesda et puis il attend qu'un ange vienne agiter l'eau. Et avec un peu de chance, il arrivera peut-être à se jeter le premier. Jusqu'à présent, ça n'avait pas réussi. Il est assez fataliste d'ailleurs, puisque quand Jésus va lui poser la question, parce que Jésus vient le rencontrer, savez-vous pourquoi Jésus est venu lui parler à cet homme-là? Au fait, vous savez pourquoi il est venu lui parler? Pour le guérir. Juste pour ça, pour le guérir. Parce qu'il savait, lui, que ça faisait 38 ans qu'il était malade. Il savait qu'il n'avait personne. C'est d'ailleurs ce qui va faire remarquer. Quand Jésus va lui dire, tu ne veux pas être guéri? Cet homme va répondre, mais j'ai personne. Je suis seul. Il y a du monde tout autour, mais c'est chacun pour soi. Sauf qui peut. Quand l'eau s'agite, tous les malades se ruent dans la piscine et le premier qui tombe dans l'eau est guéri et les autres ressortent de là. Ils ne sont pas guéris, ils sont juste mouillés, déçus. Et ils disent à quand la prochaine? Donc c'est sauf qui peut. Hein. Celui qui pourra, on ne va pas s'occuper de l'autre. Hein. Eh bien lui, il est tout seul. C'est terrible d'être seul malgré la foule. Seul malgré finalement tout un monde qui est là autour de nous. On dit souvent que la condition des handicapés n'est pas très reluisante. Même chez nous en France, imaginez ce que c'était il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, on n'en parle même pas. Seul, au milieu d'une foule, vous voyez les gens aller et venir, et puis ça ne vous concerne jamais, vous ne serez jamais béni parce que ce sera toujours trop loin. La bénédiction, elle ne vous touchera jamais. On finit par se résigner, on finit peut-être par se décourager en disant que « Mais voilà, je suis infirme, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, il faut que je traîne ça jusqu'à ma mort ». Alors il y a une bonne nouvelle cet après-midi, c'est que vous pouvez être guéri, vous pouvez être délivré. Dieu peut le faire encore. Parce que Je m'aperçois que qui pouvait porter le malade dans la piscine ? Personne. Qui pouvait le guérir quand il s'est jeté dans la piscine ? Un ange, mais manifestement, il n'ira pas, donc ce ne sera pas pour lui. L'ange aurait pu dévier un petit peu, aller à côté de la piscine et s'adresser à quelques malades au bord totalement infirmes qu'il ne pouvait se déplacer. Non, ça n'a pas marché. Qui peut prendre à son compte la maladie de cet homme et qui voudrait prendre à son compte la maladie de cet homme ? Personne. J'ai connu des personnes qui étaient capables de dire « je préférerais être malade à sa place ». C'est souvent des parents pour les enfants, c'est souvent des frères et sœurs ou des conjoints. Je voudrais prendre sa maladie et qu'il soit ou qu'elle soit en bonne santé. Mais avec des étrangers, on ne fera pas ça. Hein. On fera pas ça. Ou alors, si on le dit, on espère que ça n'arrive jamais. Hein. Parce que selon la maladie, ouais, ça fait de la peine. Mais de là à se dire « j'assume et que ça me vienne dessus », pas évident quand même. C'est pas évident. Le fait est que quelqu'un et une seule personne était capable de prendre la maladie de cet homme. Et on trouve cela dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie encore. Il est dit ceci au verset 4. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Amen. La guérison existe et on peut être seul, vraiment seul. Vous ne serez jamais seul si vous tournez vos regards vers Dieu et si vous lui demandez de faire quelque chose. Vous ne serez pas seul. Il est capable de vous guérir. Un petit peu plus loin, j'ai trouvé l'histoire d'un homme dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. C'est un homme qui est apparemment riche, donc il n'est pas en souci pour payer ses impôts, certainement, il a ce qu'il faut. Et s'il ne sait pas trop comment les payer, en tous les cas, il sait comment les collecter. C'est un collecteur d'impôts. Il s'appelle Zachée. C'est un homme qui, manifestement, n'est pas très heureux. C'est un homme qui a de l'argent. C'est un homme qui a une bonne situation. Il ne semble pas avoir de problèmes connus. On n'en connaît pas bien. Le peu qu'on connaît de sa vie ne nous en parle pas, en tous les cas. Mais ce que je trouve assez remarquable, c'est que c'est un homme qui cherche. Si vous vous êtes satisfait d'avoir une bonne santé, un bon boulot, une bonne famille, et vous dites « ça me suffit », il vous manque l'essentiel. Lui a cherché pourquoi il y avait un vide dans son cœur. Et donc, il cherche à voir qui est Jésus. L'évangile de Luc, ainsi au chapitre 19, nous dit qu'il entendra parler que Jésus doit passer par là, alors il va s'activer pour essayer d'aller le rencontrer, très simplement. Très très simplement, comme il n'est pas très grand et qu'il y avait une foule devant lui, il a une idée plus géniale qu'un autre. Il a décidé de monter dans un arbre et de là, il va pouvoir surplomber le chemin. Il va pouvoir voir Jésus à cet endroit-là. Si vous vous êtes déjà posé la question, j'aimerais bien rencontrer Jésus, mais j'ai jamais réussi. Peut-être qu'il faut juste prendre un peu de hauteur. Peut-être que vous regardez trop la tête dans le sac ou alors simplement vers le sol. Et il y a une foule de questions, de problèmes devant vous, et vous n'arrivez pas à le voir. Il passe, mais c'est inaudible, c'est incompréhensible, c'est pas clair, on ne le voit pas bien. Prenez un peu de hauteur, comme cet homme a fait. Il s'est dit, au moins de là-haut, je le verrai bien. Il a eu raison, parce qu'au moment où Jésus passe par là, Jésus va s'arrêter, et je vous cite le texte. Zachée, après que Jésus ait levé les yeux et l'ait regardé, Zachée, lui dit-il, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cet homme, des amis devaient en avoir quand même. Hein. On en a tous des amis, que ce soit 1, 10, 100. Pas les amis Facebook, hein. Les vrais. Hein. On peut en avoir pas mal. Est-ce que ça comble toutes les attentes? Ça peut, dans une large mesure, évidemment. Mais je m'aperçois qu'il n'y en a qu'un, finalement, qui a réussi à bouleverser la vie de cet homme. C'est ce Jésus-là. Jusqu'à présent, il est à la recherche. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit quand ils se sont vus, mais ils ont échangé un moment, et quand il est sorti de cet échange, il était totalement transformé, totalement transformé. Je souhaite qu'après avoir rencontré Jésus et discuté avec lui, soyez totalement transformés vous aussi. Je le souhaite. Parce que c'est la seule expérience qui bouleverse véritablement une vie. Il va réaliser qu'il est un homme pécheur. Il va réaliser qu'il est un homme qui a besoin de pardon. Il prend conscience qu'il a commis des fautes, qu'il a fait des erreurs. On a tous conscience d'avoir fait des erreurs, mais on a tous, quelque part, dans un coin de notre tête, justifié ses actes en disant « je ne pouvais pas faire autrement, je n'avais pas le choix », etc. Donc on minimise souvent la portée de toutes nos erreurs, de tout ce qu'on n'aurait pas dû faire. Souvent, on a fait ça. Mais là, cet homme est bouleversé, littéralement, prend conscience de ce qu'il est, prend conscience qu'il a besoin de réparer. Alors il a décidé de réparer et il dit « je vais déjà donner aux pauvres la moitié de mes biens », ce qui devait être certainement intéressant pour les pauvres. Et puis, il va finir par dire « si j'ai fait tort à quelqu'un ». Peut-être qu'il a mis une annonce dans le journal. « Bonjour, c'est Zachée. Je ne sais plus si je vous ai roulé ou pas, mais si vous vous souvenez que je vous ai arnaqué ou pris un peu trop d'argent, surtout n'hésitez pas, venez me voir ». Ils en ont eu la berlue, hein, ceux qui lisaient le Jérusalem Post. Ah oui, ils ont été un peu estomaqués, ils ont dit, ou Jéricho Post. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? Alors certains ont dit, non, c'est un piège. Un redressement fiscal à la sortie, à tous les coups, on ne va pas s'en sortir. Puis il y en a peut-être un qui a tenté le coup. Hein. Et il dit, mais t'es qui toi? Si, moi je me souviens, vous m'avez volé. Ah bon, t'es sûr? Montre-moi, prouve-moi. Hein. Fallait prouver quand même. Hein. Eh bien, c'était vrai. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a eu personne. Hein. Il était tellement droit, mais bon, visiblement, l'histoire dit que non. Enfin, il semblerait que pas de fumée sans feu. Le fait est que il se rend compte que c'est vrai. Alors, non seulement il lui rend ce qu'il lui devait avec ses deux plates excuses, mais il lui dit « Attends, ne t'en va pas. Mais en fait, je vais te dédommager parce que je t'ai volé, donc je ne te rends pas ce que je te dois, je te rends 4 fois plus. » La nouvelle, elle a dû faire le tour rapidement. Mais vous savez quoi? J'essaie de me mettre à la place de Zachée. Peut-être qu'en une semaine, il a été ruiné. Hein. Bon, après, il travaillera, il se refera. Hein. Mais je sais pas, ça, allez savoir. Mais ce n'est pas grave, parce que la rencontre avec Jésus a bouleversé sa vie. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des opéras qui bouleversent des hommes et des femmes, des pièces de théâtre, du cinéma, qui est capable de bouleverser des personnes, une chanson, un artiste, une rencontre avec un homme politique, un homme important, je ne sais pas, un écrivain ou quoi. Imaginez la rencontre avec le Fils de Dieu, ce que ça peut produire. Imaginez donc. Quelle que soit la question, quelle que soit la demande, quelle que soit, il a réponse à tout. À tout, il n'a pas besoin de fiche comme Julien. Il a réponse à tout. Il sait, il peut tout dire, il peut tout donner. Sans aucun problème, sa rencontre l'a littéralement transformé. J'insiste, il veut réparer, il donne, mais il se donne. Il met sa vie un petit peu dans la bascule en disant, voilà, je donne aux pauvres. Il faut le faire quand même, hein. Tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas forcément envie de faire cela. C'est un homme qui, à ce moment-là, on peut le dire, est saint et sauf. Sauf qui peut, hein. Saint et sauf, il s'en est sorti. Et il est devenu saint par la même occasion, vous rajoutez un T, il s'est passé quelque chose en lui. C'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et puis je voudrais terminer avec le cas terrible que vous connaissez de Monsieur Pilate. Vous connaissez la vie de Pilate, hein, gouverneur, quelqu'un qui a une certaine autorité malgré tout. Mais c'est terrible d'avoir de l'autorité mais pas de pouvoir. Ça sert à quoi? Vous avez de l'autorité, hein, mais ça ne fonctionne pas. Quelquefois, certains parents souffrent un petit peu de ça. Ils ont de l'autorité, mais manifestement, ça ne suffit pas. Hein. Ça suffit pas. Vous les entendez crier contre leur petit, qui est une bombe qui part dans tous les sens, etc. Et alors, il s'arrête un instant, le petit, il regarde le parent, le papa, la maman, puis il se met à rire et il continue. Pas d'autorité ou une autorité, mais en tous les cas, il n'y a pas le pouvoir de faire valoir ses dires. Ça, c'est terrible. L'histoire de Pilate, elle est beaucoup plus compliquée, bien évidemment. Je vais vous lire ce qui entoure la tragédie de Pilate. Au chapitre 19 de l'évangile de Jean, toujours, il est dit au verset 8, après qu'on ait livré Jésus à Pilate, dans la cour, ça gronde, il y a des principaux sacrificateurs, il y a des huissiers qui sont là. Et dès que Pilate, après avoir discuté avec Jésus, ressort pour rendre la liberté à Jésus, il nous est dit que la foule va se mettre à scander « Crucifie, crucifie ». C'est au verset 6. Pilate va leur répondre « Prenez-le vous-même et crucifiez-le ». Ben, sauf que ils n'avaient pas envie de le faire. Hein. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta, dit la Bible. Hé, Pilate, c'est qui commande ? C'est toi ou c'est eux ? C'est qui commande ? C'est toi ou c'est eux ? Quelques moments avant, il venait discuter avec Jésus parce que, l'ayant livré, ils sont arrivés quasiment dans la nuit vers Pilate. Et quand il va falloir juger de cette affaire, la Bible dit que même l'épouse de Pilate va lui dire « Écoute, j'ai fait des cauchemars, j'ai fait des rêves, je me sens pas à l'aise avec cet homme, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, rien. Ne prends pas de décision, fais attention, ne te mouille pas, je sens que ça va nous porter malheur. » C'est ce que ça voulait dire. Alors, il est un peu embarrassé, il va discuter avec Jésus, cherchant à comprendre qui donc... Et ce Jésus, et la discussion quand même, elle va très loin. Et Pilate va demander à Jésus, « Mais est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Ce sur quoi Jésus va lui dire, « Mais est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres ne l'ont-ils dit de moi ?» Et Pilate va lui répondre, « Moi, suis-je juif ? C'est ta nation et les principaux sacrificateurs qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et c'est un dialogue de sourds. Jésus lui parle du ciel, et lui, il parle de son problème, là. C'est à toi de juger, Pilate. Tu considères qu'il est innocent, il le dira lui-même. Je ne trouve aucun crime en cet homme, donc je le relâcherai. À peine a-t-il dit ça, que ça a grondé de plus en plus, que ça a fait de plus en plus de bruit, à tel point qu'il a été rempli de crainte, de peur, il s'est dit, mais... C'est une insurrection, c'est une manifestation, ça va mal tourner. Bon, puisque c'est comme ça, prenez-le, il leur a livré. Quelle autorité, Pilate, quelle autorité. Comme si il était contraint de le faire. Oui, il a été contraint, par ses propres peurs. Parce qu'après tout, le gouverneur, il fait ce qu'il veut. Hein. En dessous du roi, en dessous de l'empereur, le gouverneur, il fait ce qu'il veut. Hein. Si vous n'êtes pas content, c'est comme ça, hein. C'est lui qui réglait la justice tout de même. Alors il a fait une chose assez incroyable, mais il a préféré se laver les mains. D'où l'expression, vous vous rendez compte, il est devenu célèbre. Pilate, ce n'est pas à cause de Ponce, c'est juste à cause de ça. Voilà, vous imaginez ? C'est laver les mains, ce n'est pas mon problème. Si, Pilate, c'est ton problème. Pilate avait plusieurs problèmes, il en avait au moins deux, celui-là, d'être incapable de trancher en faveur de ce qu'il jugeait dans son fort intérieur comme une injustice, parce que pour lui, c'est une injustice. Mais peut-être que le plus gros problème, c'est que quand il s'adressera à Jésus, il lui posera la question, mais c'est quoi la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Après que Jésus ait discuté un moment, parlé du ciel, lui comprend pas bien, et il va tourner les talons, c'est quoi la vérité ? C'est quoi ta vérité ? En tous les cas, la sienne, c'était de ne pas se mouiller. Il a préservé son autorité, ou son pouvoir, plutôt, son pouvoir. Pour très peu de temps, quelques temps après, il va être muté, et quelques temps après, il meurt. Donc finalement, ça a servi à rien. Il a voulu préserver son intégrité, son univers, mais il ne le gardera pas. Si vous voulez vivre, et vivre pour l'éternité, auprès de Dieu, c'est maintenant qu'il faut choisir. Prenez autorité sur vos inquiétudes, prenez autorité sur votre caractère, prenez autorité, sur votre volonté au-dedans de vous qui vous dit « mais non, pas maintenant, tu as le temps, tu verras plus tard ». Non, prenez autorité, parce que finalement, j'insiste, c'est « sauve qui veut », ouais, parce que celui qui peut, c'est Dieu. Et si vous lui demandez de le faire, si vous voulez qu'il s'occupe de vous, alors il viendra s'occuper de vous. Comprenez et réalisez qu'on peut être plein de connaissances, cependant complètement ignorant du salut, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. On peut être au milieu d'une foule, bien entouré. « Oh, il ne peut rien m'arriver, je suis bien protégé. » Et puis on peut être seul, tellement seul. Chacun lutte pour s'en sortir et les autres ne seront pas là pour vous aider à vous en sortir. On peut être plein de richesses, riche, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une belle maison, parce que. Et puis malheureusement, on peut être perdu quand même. Ce n'est pas l'argent qui vous mènera au ciel. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et puis, usez de votre pouvoir, le pouvoir de dire non. Je refuse que le diable m'entourloupe encore. Je refuse que le diable m'emprisonne encore. Je refuse d'être un jouet entre ses mains, fêtu de paille au milieu de la tempête. Je refuse cela. Je veux la paix. Et si vous vous adressez à Dieu ainsi, il vous donnera la paix. Il vous donnera sa grâce et son secours. Nicodème, il faut naître de nouveau. Comment je vais faire naître d'esprit? Prie. Si tu pries, le ciel s'ouvrira et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. On va prier pendant quelques instants. Seigneur, nous venons devant toi et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te remercions parce que ces exemples sont là pour nous rappeler qu'on peut être bardé de diplômes, on peut être chargé de quantités de décorations. On peut avoir mené 10, 20, 40 batailles dans sa vie et être perdu quand même pour l'éternité. Et mon but, mon désir cet après-midi, c'était que quelqu'un passe de l'enfer au ciel, de la mort à la vie. C'est que quelqu'un passe des ténèbres à la lumière. Et ça, tu es capable de le faire. Ça, tu es capable d'intervenir. Je prie que tu le fasses maintenant. Je prie que tu glorifies ton nom. Je prie que tu manifestes ta puissance. Se passe quelque chose de concret dans chaque cœur, dans chaque vie. Glorifie-toi au Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru, nous savons pour la plupart que tu es le Dieu de la grâce et qu'il te plaira d'agir et de te manifester. Tends ta main et glorifie ton nom, je t'en prie, maintenant. Merci d'agir, Seigneur. Amen.